Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour, heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal Académie à l'Institut de France pour un nouveau Au fil des pages qui nous donne le plaisir d'accueillir Jean-Michel Treille qui vient de faire paraître chez L'Harmattan les clés de l'avenir, l'ambition industrielle. Jean-Michel Treille, bonjour.
Bonjour.
Et Jean-Michel Treille est accompagné du président Bernard Heisenberg qui a bien voulu souligner la qualité de cet ouvrage en le préfaçant. Bernard Heisenberg, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes très heureux de vous retrouver sur notre antenne. Alors, nous allons parler de votre ouvrage, je répète, Les clés de l'avenir, une ambition industrielle, 217 pages, 20 euros chez L'Harmattan. Dans cet ouvrage, vous, bien entendu, vous interrogez sur les raisons qui ont fait que ce déclin industriel de la France a perduré au cours maintenant, on va dire, au moins deux décennies.
Oh, plus que ça.
Plus que ça. Bernard Heisenberg, on va y revenir. Peut-être avant de revenir sur ce sujet, sur son thème central et surtout sur les propositions et les voies d'accès à cet avenir d'une nouvelle politique industrielle, je voudrais dire un mot pour vous présenter. Alors, Jean-Michel Treille, donc, vous êtes un auteur confirmé puisque vous avez déjà fait paraître 5 ouvrages sur des sujets qui touchent à la fois au pilotage opérationnel de l'entreprise, aux instruments de stratégie et déjà une stratégie industrielle chez différents éditeurs, notamment chez Erol. Et vous avez été, comme vous le dites, dans votre jeune temps, chargé de mission au Plan. Puis ensuite, vous avez travaillé donc au Plan et vous avez créé votre propre entreprise, en quelque sorte, et vous apportez des consultations sur les systèmes de pilotage et les politiques publiques ou privées. Voilà donc pour la présentation de Jean-Michel Treille. Pour le président Bernard Heisenberg, je rappelle, président, que vous êtes le président du Club des Vigilants, que vous êtes le fondateur de la Fondation pour la recherche sur les maladies du cerveau, et que vous êtes, je le salue au passage, le membre d'honneur très estimé du Cercle Turgot. Voilà. Merci à vous, président. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet après cette présentation. Comment en sommes-nous arrivés là ? Quelles sont les raisons de ce déclin, de cette fatalité ? Parmi tous les chiffres, je précise que votre ouvrage est particulièrement documenté et qui éclaire le sujet de façon lumineuse. J'ai retenu quelques-uns de ces chiffres, comme vous l'avez fait, président. Le premier, c'est 1 200 000 d'emplois industriels qui ont été perdus en 20 ans. Une place de la France qui est tombée au 4e rang en tant qu'employeur industriel, derrière la Pologne, c'est déjà pas mal. Et un effondrement, ça tout le monde le sait, de notre commerce extérieur à 70 milliards de déficit qui représente, vous le dites Bernard Heisenberg dans votre préface, au moins 700 000 emplois. C'est donc ma première question. Peut-être, commençons par Bernard, parce que vous le dites dans votre préface, il y a deux causes principales à ce déclin, c'est-à-dire que, en tout cas, deux effets principaux. Le premier, c'est que nous ne sommes pas bons par rapport à ceux qui produisent à coût bas, et nous ne sommes pas non plus bons par rapport à ceux qui produisent avec la qualité.
Oui, malheureusement, c'est effectivement le cas. C'est-à-dire que nous ne sommes pas bons vis-à-vis des pays d'Asie du Sud-Est et puis de la Chine, bien entendu, dont on ne peut pas ne pas parler. Ce fameux atelier du monde, mais l'atelier du monde qui déploie de grands efforts pour devenir une fabrique industrielle de très grande qualité, qui inventera et qui commence déjà à inventer ses produits, qui suit le processus faisant du Japon. Donc nous ne sommes pas bons vis-à-vis de la Chine, bien entendu, mais là pour des raisons de coûts salariaux. Et puis nous ne sommes pas bons vis-à-vis de concurrents beaucoup plus proches en Europe du Nord et encore plus près de nous en Allemagne, où les efforts faits en faveur des processus industriels, de la mobilisation industrielle, ont porté leurs fruits. Alors que chez nous, depuis maintenant 40 ans, 4 décennies, en fait, depuis la mort de Georges Pompidou, la politique industrielle n'est plus une priorité du gouvernement. On n'en parle même plus, je veux dire. Seul Edith Cresson, Premier ministre, a essayé de réanimer l'attention sur l'industrie il y a à peu près une vingtaine d'années, mais elle n'est pas restée suffisamment longtemps à Matignon pour infléchir ce désintérêt.
Alors vous avez d'autant plus de regrets que vous avez été le conseiller du président Pompidou. Vous avez d'ailleurs fait paraître un ouvrage particulièrement remarqué, Pompidou, capitaine d'industrie en 1994, et donc vous êtes considéré comme l'un des pères de la politique industrielle de l'ère Pompidou-Gaullienne, en quelque sorte.
En tout cas, il me revient, puisque effectivement j'ai suivi tout cela de très près auprès de Georges Pompidou, dont j'étais le conseiller industriel et scientifique, il me revient d'essayer de réanimer l'intérêt des pouvoirs politiques sur ce thème, mais sans grand succès jusqu'à présent. Voilà, c'est l'industrie est passée de mode chez nous et elle n'est pas passée de mode en Allemagne ou dans d'autres pays.
Tout à fait. Alors ce que vous dites tous les deux, qui est un peu plus, qui pour ma part m'a un peu plus interpellé, mais qui certainement éclaire aussi ce déclin, c'est que les succès que nous avions eus à l'époque, en créant de grands groupes internationaux industriels avec des succès avérés dans l'aéronautique, l'automobile, etc. En définitive, ça s'est traduit aussi, c'est ce que vous dites, Jean-Michel, par une sorte d'abandon, en tout cas de moindre intérêt, par rapport au plan national. Et donc l'effet d'entraînement avec, on va dire, le tissu des PME ne s'est pas fait à hauteur de... ou a été oublié, malgré la réussite de ces grands groupes internationaux. C'est un peu ça, non ?
Oui, et puis il y a eu des tas de mouvements de rachat, de fusion, de prise de possession financière par des intérêts extérieurs, ce qui fait que la cohérence des politiques aurait pu s'affirmer à partir de rôle majeur de ces grands groupes dans l'économie, effectivement, n'a pas été piloté et canalisé.
Alors, parmi les causes de ce déclin, vous avez quelque chose à ajouter ou on passe immédiatement à la... En fait, ce qui était le plus important. Enfin, de toute façon, avant de parler des voies de redressement, il faut...
Il y a eu deux grands mouvements, je pense, depuis 30 ans. Le premier, c'est l'informatisation. C'est-à-dire que l'informatique s'est mise partout et il y a des gens qui ont su s'en servir pour être plus productif, plus efficace, pour se réorganiser. Si on me demandait mon diagnostic personnel... À travers les activités que je puis avoir sur le terrain, je pense que la France n'a pas su bien utiliser les nouvelles technologies, ni au niveau de l'État, ni au niveau des entreprises, pour se moderniser au même temps, avec le même tempo que les plus forts. Ensuite, il y a eu la mondialisation, qui fait que les meilleurs se sont mis sur les marchés les plus importants et se sont organisés en conséquence. Je ne pense pas que l'économie française et que les managers français soient toujours, là aussi, en adéquation avec les meilleurs. Donc dans cet ouvrage, je pensais qu'il était intéressant de montrer quelles étaient les armes des meilleurs. Comment les grands groupes multinationaux qui dominent l'économie aujourd'hui, les 500 premiers qui font 30% de la PIB mondiale, sont-ils organisés ? Comment managent-ils leurs affaires ? Parce qu'il y a des tas de leçons ensuite à en tirer sur la notion de compétitivité qui n'est pas simplement, c'est important, une notion de coût, des charges, etc. Il y a bien d'autres paramètres qui interviennent.
En ce même sens, alors d'abord peut-être, dites-nous un petit peu quels sont les atouts de ces 500 grands groupes par opposition à ce qu'est la situation de la France. Quels sont les points forts de cette différenciation ?
Ils ont des stratégies qui sont basées principalement sur trois choses. Des stratégies d'innovation pour renouveler leur offre en permanence. Et pour renouveler l'offre en permanence, il faut investir. Donc il faut conquérir des marchés au niveau mondial. Donc des implantations mondiales pour financer en permanence des efforts d'innovation qui font qu'on entretient l'offre et qu'on est les meilleurs. Deuxièmement, des organisations capables de mettre en œuvre ces stratégies dans des entités qui font des centaines de milliers de personnes, comme des armées en temps de guerre. Donc des méthodes de planification, des méthodes de gestion tout à fait modernes, basées sur la construction de réseaux informatiques de commandement que l'on voit rarement ici. Et puis, il y a enfin leur capacité à optimiser en permanence, d'un point de vue mondial, tous les facteurs locaux. Alors on va mettre une usine là où il y a moindre coût, on va mettre une filiale pour avoir des avantages fiscaux dans un paradis fiscal, et on optimise tout ça par rapport à une vision globale. Le fait essentiel de cette affaire, il y a des stratégies. Mmh. Ce ne sont pas des stratégies à 5 minutes près, ce sont des stratégies sur le long terme, parce que les cycles de vie de produits, etc., exigent des visions à long terme.
Alors, dites-moi, Jean-Michel Treille, donc, est-ce que vous ne pensez pas que les difficultés que rencontre l'industrie automobile aujourd'hui relèvent en partie de ce que vous étiez en train de décrire, c'est-à-dire peut-être une vision un peu trop très court terme et une optimisation insuffisante à l'échelon des optimisations de fermeture, d'ouverture d'usines, de planification et de prise en compte de la dimension mondiale ?
J'ai eu l'occasion, dans mon nouveau cadre professionnel, d'intervenir chez Renault il y a quelques années. Ouais. je connais moins bien Peugeot, je ne pense pas que les dirigeants de Renault et de Peugeot n'aient pas de stratégie.
Bon, donc ça vous nous rassurez.
Je pense qu'ils ont des stratégies. Après, la question qu'on peut se poser, mais il est toujours facile de donner des leçons après,
ouais.
Comme certains le font aujourd'hui, est-ce que c'était les bonnes ou pas, c'est une autre question, je ne veux pas rentrer là-dedans.
D'accord, d'accord.
Il y a quand même une contrainte que ces groupes ont, c'est que, est-ce qu'un groupe est là pour se développer dans le cadre d'une libre entreprise, en faisant du profit, etc., ou est-ce qu'il doit servir le bien commun ? Et à partir du moment où il y a eu des problèmes sociaux, etc., bon, on voit la collusion entre des approches très très différentes. Et ces groupes-là n'ont peut-être pas pu manœuvrer comme ils le souhaitaient pour appliquer à leur niveau les mêmes stratégies que d'autres groupes internationaux ont appliquées en allant mettre les usines là où il fallait, etc. Donc je pense qu'il est très difficile de répondre à cette question si on ne regarde pas tous ces paramètres.
Oui, le dialogue social à la française n'est pas forcément un atout supplémentaire pour développer ce genre de stratégie. Mais enfin, c'est un autre débat, hein, mais cela étant, ça ne me paraît pas être complètement éloigné de ce que vous disiez.
L'État est-il là pour permettre aux entreprises de se développer en leur créant le meilleur environnement favorable ? Si on parle d'esprit de libre entreprise et d'entrepreneur, vous avez le droit de créer des entreprises, vous avez le droit de vous tromper, en tant qu'actionnaire, de payer les dégâts. C'est une première vision des choses. On n'est pas dans celle-ci aujourd'hui, alors qu'on y est dans d'autres pays. Deuxième vision des choses, c'est l'entreprise est bien commun. Ça veut dire qu'à ce moment, l'entreprise doit être le support de toutes les politiques d'un État, politique sociale, politique fiscale. Elle doit payer beaucoup d'impôts, elle doit, elle ne doit pas perdre de salariés. Alors, quand on n'a pas tranché exactement sur ce que l'on veut faire, secteur par secteur, parce qu'il y a des secteurs où la notion de bien commun peut apparaître, ou de souveraineté technologique qui exige peut-être des cas particuliers, on n'a pas tranché, on est dans des ambiguïtés permanentes. Et on ne sait plus qui fait quoi.
D'accord. Et vous pensez que c'est une des raisons qu'il y a comme effet d'avoir entraîné une partie de ce déclin industriel ?
Je pense que c'en est une, plus la complexité de l'État aussi, qui n'est pas au niveau international de par sa modernité, ses modes d'intervention et sa capacité à évaluer les conséquences des actions qu'il engage.
Donc vous vous interrogez sur la qualité de l'État stratège
Oui. L'État n'est pas stratège aujourd'hui, il ne l'est plus. Il y avait le commissariat du plan dans son temps, qui était un lieu de dialogue. Alors il y avait des avantages et des inconvénients, mais c'était quand même quelque chose qui était très positif. Il est acteur dans la mesure où il distribue de l'argent, et il peut être partenaire dans la mesure où il peut le distribuer sous certaines conditions, dans le cadre de contractualiser, etc. Aujourd'hui, il est surtout distributeur de mesures et d'argent. L'aspect stratège a disparu, et l'aspect partenaire, je ne le vois pas très bien.
Donc c'est une forme de générosité avec l'argent des autres, c'est très, très particulier. Mais je me tourne maintenant vers Bernard. Alors vous, à un moment, donc, vous conduisiez ou participiez à cette politique industrielle. Il y avait un État, il y avait un contexte qui est quand même assez voisin de celui que l'on a aujourd'hui. Et vous n'aviez pas ces freins au niveau de, je dirais, de la société, et même au niveau des partenaires, de l'ensemble des parties prenantes des entreprises, pour aller dans le sens de l'avenir, du progrès, de l'intégration de la science, etc. C'était moins contraignant à cette époque.
Non, pas du tout. La mondialisation était, contrairement à ce qu'on croit aujourd'hui, était déjà là. Je veux dire, la France était déjà immergée dans les échanges internationaux. Il y avait déjà des multinationales françaises, Dieu merci, on y avait poussé. Le commerce extérieur français représentait déjà 20% de la richesse française. Aujourd'hui, c'est 35%, mais bon, 20%, ça prouve bien qu'on était déjà dans un système international. Non, ce qui s'est passé à l'époque gaullo-pompidolienne en faveur de l'industrie, c'est que d'abord, il y a eu un patriotisme industriel qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui existe chez nos grands concurrents, je veux dire. Hein, il existe chez les Allemands. Ô combien, chez les Allemands, vous ne pouvez pas imaginer qu'Arcelor passe sous la coupe de Mittal, ça ne peut pas, ou Pechiney sous celle d'un grand groupe d'Amérique du Nord, ça n'existe pas. Aux États-Unis, même chose, il y a un patriotisme industriel qui empêche les rapines sur les grands groupes, parce qu'on sait ce qu'il en est après, et on le vit malheureusement en ce moment du côté d'ArcelorMittal. Donc ce patriotisme existait, il n'existe plus du tout, il doit être le fait de l'État, d'une certaine façon, ce patriotisme industriel, qui doit propager ce virus, si j'ose dire, au sein des entreprises. Et puis il y avait le fait qu'on demandait aux entreprises d'innover en permanence, d'accroître un niveau élevé leur effort de recherche-développement, avec des encouragements qui d'ailleurs subsistent aujourd'hui. Il y a toujours un crédit d'impôt sur la recherche-développement, mais quand vous regardez le résultat, il est que, rapporté au chiffre d'affaires, les grandes entreprises françaises font actuellement décroître leur effort de recherche-développement, et non pas croître, comme c'était le cas à l'époque. Je ne comprends pas que l'État français ne s'en mêle pas, je veux dire. Il distribue 4 milliards d'euros chaque année au groupe industriel pour voir cet effort de recherche-développement diminuer. Il y a quelque chose là qui est un petit peu étonnant. Dernier point relativement important à mes yeux, ce qui conditionne dans le fond la façon dont les entreprises peuvent se déployer dans cette compétition économique, que j'ai appelée pour ma part guerre économique dès 1971, c'est le niveau de formation et d'éducation des gens qui travaillent dans ces groupes et plus généralement des citoyens du pays dans lequel le grand groupe est implanté majoritairement. Et à l'époque, eh bien, on a essayé d'élever le niveau de vie. Alors, le niveau d'éducation, on continue toujours d'ailleurs, puisque maintenant, toute une génération arrive presque au niveau du bac. Mais pendant qu'on arrive presque au niveau du bac, les Américains se sont fixés pour objectif en 2018 de mettre l'ensemble des Américains au niveau de bac plus 3. Bac plus 3 en 2018. Nous, on arrive péniblement à
ouais, on a une longueur de retard.
Non, mais ceci, alors, bon, les Américains exagèrent probablement dans l'élaboration de cette perspective et dans la diffusion qu'ils donnent, à la publicité qu'ils donnent à cette perspective, qui ne réaliseront probablement pas, j'imagine qu'ils n'arriveront pas à comprendre.
Mais enfin, c'est quand même
mais enfin ça indique une tendance.
C'est ça.
Une tendance lourde. Ça veut dire, tout ceci veut dire que c'est par le haut qu'on peut sortir de la situation actuelle, de la crise. Par le haut, c'est-à-dire par un effort de recherche-développement accru, un redémarrage des investissements dans ce domaine, et par un redémarrage ou une poursuite accélérée du niveau d'éducation, de l'élévation du niveau d'éducation des Français. Ouais. C'est pas par des emplois de bas niveau qu'on sortira de la crise, c'est par des emplois de haut niveau.
Donc, rôle de l'État, disparition du plan, certainement, qui était un outil qui pouvait favoriser et sacraliser, je dirais, une politique industrielle. Ce que vous dites, avant peut-être de terminer en présentant ce que pourrait être la politique industrielle, en tout cas les principales clés de cette politique industrielle, je rappelle ce que vous dites à la page 35, je précise que c'est très bien écrit, hein, c'est tout à fait lisible. En ce sens, la politique industrielle, c'est la politique d'un pays en faveur de ses entreprises, avec la prise en compte d'une part des spécificités de chaque secteur, d'autre part d'intérêts partagés et bien compris des entreprises, se référant aux objectifs globaux de politique publique. Donc ça veut dire que la politique industrielle, c'est quelque chose qui englobe un périmètre beaucoup plus large que l'industrie au sens étroit du terme. Ça inclut la culture, ça inclut la France, malheureusement, sur bien des plans, est en train de devenir un des champions parmi les pays où les entreprises sont les plus mal aimées et où les dirigeants sont les plus haïs. Donc vous incluez dans cette politique industrielle cette dimension-là aussi, mais qui est, alors là, changer de culture ou la modifier dans le bon sens, et ça ne se fait pas comme ça, quoi.
La phrase dit, si un pays a des ambitions militaires, culturelles, etc., sociales, développement des populations, elle ne peut pas les servir si la politique industrielle qu'il conçoit n'est pas faite pour. Donc le moteur essentiel dans tous les cas, c'est la capacité des entreprises à répondre aux objectifs de cette politique. Alors certains d'entre eux peuvent être, je veux développer mon industrie, je fais tout pour qu'elle se développe sur les marchés internationaux avec toute une série d'appuis. Et plus l'industrie est puissante, plus aussi elle peut avoir, dans le cadre d'un partenariat avec le pouvoir public, à contribuer à des objectifs qui ne sont pas des objectifs à court terme, immédiat ou simplement dictés par le profit. Nul ne sait ce que sera le monde dans 20 ans.
Oui, ça c'est clair.
Nul ne sait le pétrole que nous aurons, etc. Donc il y a deux enjeux, si vous voulez. Il y a un enjeu d'efficacité pour l'appareil économique industriel, pour qu'il soit puissant et fort. Et il y a son adéquation avec les ambitions d'un pays, ou de l'Europe, je dirais, parce que la France est maintenant, malheureusement, son influence est un petit peu réduite. Il y a ces deux dimensions qu'il faut prendre en compte.
On va conclure là-dessus. L'un et l'autre, si vous aviez à donner une clé, une seule, quelle serait celle que vous mettrez en priorité? Vous, le retour d'un État stratège, si j'ai bien compris, enfin plus impliqué, et en tout cas...
D'un État stratège, recréant cette notion de patriotisme industriel, au bon sens du terme, ouais. On ne ferme pas nos frontières, on incite nos compétiteurs, nos champions à agir mondialement, en respectant la base arrière, et puis l'élévation par le haut des encouragements à l'industrie, par la formation, par un renouveau d'efforts de recherche-développement, peut-être par de nouvelles formules de financement d'aide à ces systèmes de recherche-développement. Et puis en dernier lieu, je conseille vivement à nos stratèges étatiques de lire le bouquin de Jean-Michel Treille.
C'est une très bonne transition, donc Jean-Michel, vous, à conclusion.
Moi je pense que le problème majeur pour un pays comme le nôtre, qui a sa personnalité et son histoire, c'est de savoir l'avenir qu'il veut dans les 10-15 ans qui viennent, et à partir de ça, d'éclairer ses actions au plan industriel, ses relations avec l'Europe, etc. Et de mettre l'industrie au service d'une ambition, d'où le thème, l'ambition industrielle.
Écoutez, messieurs, il me reste à vous remercier. Merci, Président Bernard Ezembert. Merci, Jean-Michel Treille. Je rappelle donc cette remarquable parution chez l'Harmattan, Les clés de l'avenir, l'ambition industrielle. Merci à vous et bravo. À très bientôt.
Merci.
Merci.